Je viens vous rejoindre ce matin dans cette troisième journée de notre retraite de l'Lectio Divina. C'est avec la figure de Marie de Magdala, très belle et très riche figure, telle qu'elle est présentée en particulier dans l'Évangile selon saint Jean. C'est encore avec lui principalement que nous allons méditer sur cette figure, sans oublier que saint Luc lui donne une certaine importance, puisqu'il la présente parmi les femmes qui suivaient Jésus sur les routes de Palestine. Mais c'est avec saint Jean que Marie de Magdala va prendre cette importance d'être une vraie figure de commencement, la première à avoir fait l'expérience de la rencontre avec le Christ ressuscité, celle qui est la première à devenir témoin de la miséricorde, comme le dit saint Grégoire le Grand, celle que saint Thomas d'Aquin n'hésite pas à qualifier d'apôtre des apôtres, parce que non seulement elle va faire la première expérience de la rencontre avec la personne de Jésus ressuscité, et il y a dans cette rencontre, nous allons le voir, quelque chose d'emblématique de toute rencontre du Christ ressuscité. Mais la qualité particulière de cette rencontre, c'est qu'elle n'est pas fermée sur elle-même. Il ne s'agira pas pour Marie, vous le savez bien et vous l'avez lu, de rester avec Jésus ressuscité dans cette sorte d'intimité dont on imagine bien que cela pouvait être le beau désir de son cœur. Mais Jésus veut la conduire infiniment plus loin vers les autres, vers la mission. Elle va être la première à être chargée d'annoncer Jésus ressuscité. C'est elle qui, la première, est chargée de témoigner de cette présence du Christ ressuscité, une présence transformante comme elle vient d'en faire l'expérience, et une présence, et c'est la dernière dimension de la méditation de ce matin, une présence qui tourne vers le Père, qui nous invite à contempler Jésus montant vers celui qui est désormais son Père et notre Père. Mettons-nous encore une fois à l'écoute de cette belle rencontre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Marie se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Or, tout en pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau, et elle voit deux anges en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ceux-ci lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Ayant dit cela, elle se retourna et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui dit « « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je l'enlèverai. » Jésus lui dit « Marie ». Se retournant, elle lui dit en hébreu « Rabouni », ce qui veut dire « maître ». Jésus lui dit « Cesse de me retenir, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vient annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et qu'il lui a dit cela. Parole du Seigneur. Comme à chaque conférence du matin, je veux tout simplement avec vous ouvrir quelques pistes de réflexion et de méditation pour accompagner, compléter peut-être, ce qui a été déjà votre méditation de ce matin et ce qui pourra se prolonger tout au long de cette journée. Tout d'abord, quelques réflexions sur cette figure de Marie de Magdala, telle que l'Évangile selon saint Jean nous la présente. Pour le quatrième Évangile, Marie de Magdala est liée étroitement au mystère pascal du Christ. Elle est mentionnée pour la première fois à la croix du Christ, aux côtés de la mère de Jésus, du disciple bien-aimé, et de Marie, femme de Clopas. Autrement dit, Marie de Magdala est présente au moment où Jésus donne sa vie par sa mort sur la croix, et elle va devenir aussi l'un des témoins privilégiés du côté transpercé du Christ, ce coup de lance. Elle est celle qui va pouvoir nous transmettre, avec le disciple bien-aimé, cette grande révélation de l'amour de Dieu pleinement manifesté dans le Sacré-Cœur du Christ. Je reviendrai cet après-midi sur ce côté transpercé du Christ sur la croix. Ensuite, lorsque saint Jean abordera dans le chapitre 20 cette grande journée de manifestation de Jésus ressuscité, Il fait commencer cette journée au tout petit matin alors qu'il fait encore sombre. Et c'est Marie de Magdala qui, la toute première, vient de bonne heure au tombeau. C'est elle qui aperçoit la pierre enlevée du tombeau et c'est elle qui va prévenir les deux disciples. Marie apparaît d'emblée comme cette figure des commencements, au commencement du monde nouveau, au commencement de ce nouveau jour. Et Saint Jean la présente bien comme une figure de commencement avec un certain nombre d'indices qui vont en ce sens. D'abord, elle est la première à faire l'expérience de la rencontre du Christ ressuscité. Mais lorsqu'elle fait cette rencontre, c'est au moment où elle passe du tombeau, symbole de l'enfermement, de la mort et du mal, à la personne de Jésus ressuscité. Lorsque elle fait l'expérience de cette rencontre, le tombeau n'a plus aucune place et vous vous rendez compte peut-être que dans toute la suite du récit de Saint Jean, le tombeau aura complètement disparu. Marie est aussi la première à être envoyée en mission pour témoigner de l'expérience qu'elle vient de vivre. Enfin, la méprise soulignée avec soin par Saint Jean lorsque Marie de Magdala prend Jésus pour le maître du jardin, pour ce jardinier, est riche de sens, puisque cela nous rappelle que Jésus a été enterré dans un jardin qui évidemment évoque le jardin des origines. Mais attachons-nous quelques instants à la rencontre elle-même de Jésus ressuscité avec Marie de Magdala, une rencontre transformante et une rencontre qui devient le modèle de toute expérience qu'un croyant peut faire du Christ ressuscité. Il y a bien quelque chose de modélisant, d'emblématique, qui peut rejoindre chaque expérience de chaque chrétien, tout en étant, comme nous l'avons déjà dit, à chaque fois une expérience unique. L'événement rapporté par Saint Jean est d'abord une véritable rencontre, une rencontre au sens le plus fort du terme, une rencontre qui passe par une forme de visibilité, mais dont la relation est approfondie par la parole, par le nom, par l'échange des noms. La reconnaissance a lieu non pas au moment où Jésus se donne à voir, mais au moment où il appelle Marie de Magdala par son nom, Marie. Et c'est à ce moment-là qu'elle peut appeler Jésus Rabouni. Deuxièmement, cette rencontre est profondément transformante pour Marie. Le texte commence en soulignant l'épreuve que vit Marie à proximité du tombeau, la mention du tombeau près duquel se tient Marie, la mention aussi de ses pleurs. Nous sommes bien dans le manque, dans la tristesse et finalement encore dans ce rapport à la mort. Et avec une vraie pédagogie et probablement aussi une belle délicatesse, Jésus, avant de se manifester lui-même à Marie, commence par lui envoyer deux anges qui vont permettre à Marie d'exprimer d'abord l'épreuve qu'elle traverse et le manque dont elle souffre. Ce sont les anges d'abord qui demandent à Marie pourquoi est-ce qu'elle pleure avant que Jésus lui pose la même question. Et lorsque ces anges lui posent la question « Pourquoi pleures-tu ?», elle peut exprimer sa souffrance « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, dit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » Quelle parole importante et riche de sens, comme souvent dans le quatrième évangile, les formules peuvent être comprises à un double niveau d'interprétation. Tout d'abord, évidemment, Marie l'a dit sa souffrance de voir que le corps de Jésus a disparu et qu'on l'a enlevé. Mais finalement, dans ce qu'elle dit, il y a quelque chose de profondément vrai, même si elle ne s'en doute pas encore. Oui, Jésus, le Seigneur, a été enlevé, mais pas enlevé par quelques hommes, mais bien enlevé par le Père. Et si elle ne sait pas où on l'a mis, Jésus lui-même lui donnera la révélation de l'endroit où il doit se trouver, où il veut nous entraîner avec lui, rien d'autre que chez son Père, qui devient également notre Père. Troisièmement, la reconnaissance de Jésus est particulièrement soignée par le récit. Au centre de ce texte, en effet, tout bascule, et cela est souligné par un double mouvement de Marie. Elle se retourne une première fois pour découvrir Jésus qui est présent, même si elle ne sait pas encore que c'est Jésus et si elle le prend pour le maître du jardin. Et c'est lorsque Jésus l'appelle par son nom qu'elle se retourne à nouveau, si vous avez bien suivi le mouvement que fait Marie de Magdala, elle aurait dû se retrouver, en se retournant à deux reprises, à nouveau face au tombeau. Eh bien, le tombeau a complètement disparu, et à la place du tombeau, symbole de mal, de mort et d'enfermement, se trouve au contraire celui qui ouvre à une vie nouvelle, celui qui est vainqueur de tout mal, celui qui nous libère de tout enfermement, le Christ ressuscité qui enfin peut se faire reconnaître. Ce double retournement, comme une conversion la plus complète possible, transforme profondément Marie pour en faire une personne nouvelle. Désormais, elle va être capable, non pas seulement de reconnaître qui est Jésus, mais d'entendre aussi la parole radicalement nouvelle que Jésus veut lui donner, non pas de le retenir avec elle, mais de partir pour être témoin du Christ ressuscité. Cette rencontre si importante et si riche se termine en fait sur un double mouvement, le mouvement de Marie, qui part annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Vous avez peut-être repéré d'ailleurs que dans les différentes manifestations de Jésus ressuscité, le mouvement est toujours le même. C'est Jésus qui tout d'un coup se manifeste comme présent et la fin du récit est toujours un envoi en mission. Je vous le dis donc, cette rencontre se termine par le départ de Marie qui part annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit ». Mais Marie n'est pas la seule à partir. Au terme de cette rencontre, Jésus révèle à Marie que lui-même est celui qui monte vers son Père et notre Père. Et c'est l'ultime grande révélation de cette rencontre et le grand témoignage que Marie va porter, le témoignage que Jésus est celui qui ne cherche pas à attirer à lui, mais avec lui et par lui, qui veut nous ouvrir ce chemin du Père. Cela peut faire partie aussi de notre méditation de ce jour. Comment sommes-nous tournés vers le Père? Comment, en disciples du Christ ressuscité, nous découvrons cette communion avec le Père, unis au Christ, dans le Christ et par le Christ? N'oublions pas, et je terminerai par là les méditations de ce matin, n'oublions pas que comme chrétiens, nous sommes unis au Christ, tournés vers le Père, pouvant vivre cette relation filiale dans le don de l'Esprit-Saint. Un chrétien est celui, bien sûr, qui peut prier Jésus, qui peut prier l'Esprit-Saint, mais qui est essentiellement celui qui est tourné vers le Père, celui qui prie le Père. Qui priez-vous dans votre prière? Et au moment où vous allez formuler votre prière de réponse, à qui choisissez-vous de vous adresser? Bien sûr, vous pouvez vous adresser à l'Esprit-Saint, je l'ai évoqué à plusieurs reprises. Vous pouvez aussi prier Jésus comme on le trouve si souvent dans l'Évangile. Mais n'oubliez jamais que la plus grande prière chrétienne est celle qui est tournée vers le Père. C'est d'ailleurs la prière que Jésus nous a enseignée, celle du Notre Père. C'est également ce à quoi Saint Jean nous donne accès dans ses grandes prières dites sacerdotales de Jésus. Jésus lui-même parle très souvent du Père, celui qu'il a envoyé, celui vers qui il va, celui vers qui il veut nous tourner. Un chrétien, c'est d'abord un enfant bien-aimé du Père, accueilli dans cette qualité de relation que le Père a de toute éternité avec le Fils et qu'il veut vivre avec nous, unis au Christ ressuscité. Comme d'habitude, j'en arrive maintenant à quelques réflexions sur le rythme de notre retraite et sur la pédagogie de la Lectio Divina. Nous sommes dans le temps, au cœur de cette retraite maintenant, dans le temps de la persévérance. Il faut vraiment que le rythme soit pris. La première journée était celle de la découverte. La deuxième pouvait être celle de la mise en place du rythme. Désormais, nous sommes dans la persévérance, où il nous faut durer dans cet accueil de la parole de Dieu, que ce soit un accueil persévérant. Et c'est en tout cas ce que je souhaite pour vous et ce que je demande à l'Esprit-Saint pour vous. Et n'hésitez pas à demander à l'Esprit-Saint aussi la grâce de cette persévérance. S'il reste encore des questions sur le rythme, si vous n'avez pas pu complètement mettre en place ces quatre temps et la différence entre ces quatre temps d'accueil de la parole, la complémentarité entre ces quatre moments, je vous invite à ce moment-là à reprendre les textes que je vous avais envoyés pour la préparation de cette retraite, afin de finir de mettre tout cela en place. Encore une fois, je vous invite à écrire certaines choses de votre lecture, méditation ou prière, selon évidemment ce que vous souhaitez. Ça peut être peut-être une seule fois au terme de la journée, comme une sorte de petit résumé de la parole qui a pris de l'importance durant cette journée à la lecture, puis qui s'est approfondie dans la méditation et qui a nourri votre prière de réponse. Ou alors, ça peut être une écriture un peu plus abondante à chacune des trois premières étapes, en tout cas, où à chaque fois, vous mettez quelque chose par écrit. D'abord, de ce qui a marqué votre lecture le soir, ensuite, de ce qui a été déployé dans la méditation, et enfin, la forme que prend votre prière de réponse. Et dans ce cas-là, c'est ce que vous avez écrit avec lequel vous pouvez venir au temps de la contemplation pour entrer dans cette prière silencieuse. Et en quelque sorte, pour encourager votre persévérance durant cette retraite d'accueil de la parole de Dieu, je voudrais vous rappeler quelques éléments sur le mouvement actuel, ce renouveau, cette redécouverte de la lectio divina dans l'Église. C'est d'abord au cours du Concile Vatican II, dans un de ses plus grands textes appelé Dei Verbum, les pères conciliaires ont voulu réaffirmer l'importance de la parole de Dieu au cœur de la vie de l'Église. Au paragraphe 20, le document s'exprime ainsi. L'Église a toujours vénéré les divines écritures, comme elle a toujours fait aussi pour le corps même du Seigneur. Elle qui ne cesse pas, surtout dans la Sainte Liturgie, de prendre le pain de vie sur la table de la parole de Dieu et sur celle du corps du Christ pour l'offrir aux fidèles. Toujours elle lut et elle a pour règle suprême de sa foi les Écritures, conjointement avec la Sainte Tradition, puisque, inspirée par Dieu et consignée une fois pour toutes par écrit, elle communique immuablement la parole de Dieu lui-même et font résonner dans les paroles des prophètes et des apôtres la voix de l'Esprit-Saint. Il faut donc que toute la prédication ecclésiastique, comme la religion chrétienne elle-même, soit nourrie et régie par la Sainte Écriture. Dans les saints livres, en effet, le Père qui est aux cieux vient avec tendresse au-devant de ses enfants et entre en conversation avec eux. Or, la force et la puissance que recèle la parole de Dieu sont si grandes qu'elles constituent pour l'Église son point d'appui et sa vigueur, et pour les enfants de l'Église, la force de leur foi, la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle. Dès lors, ces mots s'appliquent parfaitement à la Sainte Écriture. C'est dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Elle est vivante donc et efficace, la parole de Dieu. Cette parole qui a le pouvoir d'édifier et de donner l'héritage avec tous les sanctifiés. C'est une référence aux Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 32, et à la première épître de saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Je reviendrai cet après-midi sur les grands textes du magistère récent concernant l'importance de la parole de Dieu et la lectio divina, mais je termine pour ce matin avec cette seconde référence en Dei Verbum au paragraphe 24. Tous les clercs, en premier lieu les prêtres du Christ et tous ceux qui vaquent normalement comme diacre ou comme catéchiste au ministère de la parole, doivent, par une lecture spirituelle assidue et par une étude approfondie, s'attacher aux Écritures, de peur que l'un d'eux ne devienne un vain prédicateur de la parole de Dieu au dehors, lui qui ne l'écouterait pas au-dedans de lui. Alors qu'il doit faire part aux fidèles qui lui sont confiés, spécialement au cours de la Sainte Liturgie, des richesses sans mesure de la parole divine. De même, le Saint Concile exhorte de façon insistante et spéciale tous les chrétiens, et notamment les membres des ordres religieux, à apprendre, par la lecture fréquente des divines Écritures, la science éminente de Jésus-Christ. Très bonne journée de Lectio Divina.